Chapitre 7. Verpet et Croupton. Harry et Ron se démêlèrent l'un de l'autre et tout le monde se releva. Ils étaient arrivés sur ce qui semblait être une lande déserte plongée dans la brume. Devant eux se tenaient deux sorciers à l'air fatigué et grincheux. L'un avait à la main une grosse montre en or, l'autre un épais rouleau de parchemin et une plume. Tous deux s'étaient habillés en moldu, mais d'une manière très malhabile. L'homme à la montre portait un costume de tweed avec des cuissardes, son collègue, un kilt écossais et un poncho.
« Bonjour, Basil, » dit M. Wesley.
Il ramassa la vieille botte et la tendit au sorcier en kilt qui la jeta dans une grande boîte remplie de porte-loin usés. Dans la boîte, Harry vit un vieux journal, des canettes de soda vide et un ballon de football crevé.
« Bonjour, Arthur, »
répondit Basil d'un ton là.
« Tu ne travailles pas aujourd'hui. Quand on peut se permettre, Nous, on est restés ici toute la nuit. Feriez bien de dégager le chemin, on attend tout un groupe en provenance de la forêt noire à 5h15. Attends, je vais te dire où tu dois t'installer. Voyons. Wesley. »
Il consulta la liste qui figurait sur son parchemin.
« T'es à peu près à 500 mètres d'ici. Le premier pré que tu trouveras. Voilà. Le directeur du camping s'appelle Monsieur Roberts. Alors, Digori, maintenant, toi, c'est le deuxième pré. Tu demanderas à M. Payne. »
« Merci, Basil, » dit M. Wesley en faisant signe aux autres de le suivre.
Ils partirent sur la lande déserte sans voir grand-chose dans la brume. Une vingtaine de minutes plus tard, une maisonnette de pierre apparut à côté d'un portail. Au-delà, Harry apercevait les formes fantomatiques de centaines et de centaines de tentes alignées sur la pente douce d'un pré que limitaient à l'horizon les arbres sombres d'un petit bois. Ils dirent au revoir aux Digori et s'approchèrent de la maisonnette. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant les tentes. Harry suit au premier coup d'œil que c'était le seul véritable moldu des environs. Lorsque l'homme les entendit arriver, il se tourna vers eux.
« Bonjour !»
dit M. Wesley d'une voix claironnante. « Bonjour !» répondit le moldu.
« C'est vous, Monsieur Roberts ?»«
Bien moi !» répondit l'autre. « Et vous, qui êtes-vous »«
Wesley !»
On a loué deux tentes il y a deux jours.
« D'accord, »
dit M. Robert en consultant une liste affichée au mur.
« Oui, vous avez un emplacement près du petit bois, là-bas. Et pour une nuit ?»«
C'est ça, oui, » dit M. Wesley.
« Dans ce cas, vous payez d'avance ?»
demanda M. Roberts.
« Oui, bien sûr, » répondit M. Wesley.
Il recula de quelques pas et fit signe à Harry de s'approcher de lui. « Tu veux bien m'aider, Harry ?» murmura-t-il en sortant de sa poche une liasse d'argent moldu dont il commença à détacher les billets. « Celui-ci, ça fait combien ? 10 livres ?»« Ah oui, il y a un chiffre là, oui. Et alors, ça, c'est 5 livres. Hmm. »« Non, 20 !» corrigea Harry à voix basse, voyant avec une certaine gêne que M. Roberts essayait de comprendre chaque mot de leur conversation. « Ah oui, donc, c'est... Je sais plus, j'arrive pas à m'y retrouver avec ces petits bouts de papier. »«
Vous êtes étranger ?»
dit M. Roberts lorsque M. Wesley revint vers lui avec la somme de billets.
« Étranger, » répéta M. Wesley, déconcerté. « N'êtes pas le premier à avoir du mal avec l'argent, » dit M. Roberts en examinant attentivement M. Wesley. « Il y a 10 minutes, j'ai eu 2 clients qui ont essayé de me payer des grosses pièces en or de la taille d'un enjoliveur. »«
Vraiment ?» dit M. Wesley mal à l'aise.
M. Roberts fouilla dans une boîte en fer blanc pour trouver la monnaie.
« J'ai jamais eu autant de monde. » dit-il soudain en regardant à nouveau le pré plongé dans la brume. « Des centaines de réservations. D'habitude, les gens viennent directement. Je... »«
Ah bon ?» dit M. Wesley, la main tendue pour prendre sa monnaie.
Mais M. Roberts ne la lui donna pas.
« Oui, » dit-il d'un air songeur, « des gens qui viennent de partout. Beaucoup d'étrangers. Pas seulement des étrangers, des drôles de zigotos, si vous voulez mon avis. Il y a un type qui se promène habillé avec un kilt et un poncho.
« Et alors, il ne faut pas ?» demanda M. Wesley d'un ton anxieux.
« On dirait une sorte de grand rassemblement, » dit M. Roberts. « Ils ont tous l'air de se connaître comme s'ils venaient faire la fête. »
À ce moment, un sorcier vêtu d'un pantalon de golf surgit de nulle part à côté de la porte.
« Oubliette !»
dit-il précipitamment en pointant sa baguette magique vers M. Roberts. Aussitôt, le regard de ce dernier se fit lointain. Les plis de son front s'effacèrent et une expression d'indifférence rêveuse apparut sur son visage. Harry reconnut les symptômes d'une modification de la mémoire provoquée par un sortilège d'amnésie.
« Voici un plan du camping, » dit M. Roberts à M. Wesley d'une voix placide. « Et votre monnaie ?»«
Merci beaucoup. »
Le sorcier en pantalon de golf les accompagna vers le portail d'entrée du camping. Il avait l'air épuisé, le menton bleui par une barbe naissante, les yeux soulignés de cernes violets. Dès qu'il fut certain de ne pas être entendu de M. Roberts, il murmura à l'oreille de M. Wesley.
« J'ai eu beaucoup de soucis avec lui. Il lui faut un sortilège d'amnésie 10 fois par jour pour le calmer. Et Ludo Verpé ne nous aide pas. Il se promène un peu partout en parlant à tue-tête de cognard et de soif, sans se préoccuper le moins du monde des consignes de sécurité anti-moldu. Crois-moi, je serai content quand tout ça sera terminé. À plus tard, Arthur. »
Et il disparut en transplanant.
« Je croyais que M. Verpé était directeur du département des jeux et sports magiques, » dit Ginny d'un air surpris. « Il devrait faire attention de ne pas parler de cognard en présence de Moldu, non ?»«
En effet, il devrait, » répondit M. Wesley avec un sourire en les conduisant dans l'enceinte du camping. « Mais Ludo a toujours été un peu, comment dire, négligent en matière de sécurité. À part ça, on ne pourrait pas rêver d'un directeur plus enthousiaste à la tête du département des sports. »
Il a lui-même joué dans l'équipe d'Angleterre de Quidditch, et il a été le meilleur batteur que l'équipe des Frelons de Wimborne ait jamais eu.
Ils montèrent la pente douce du pré enveloppée de brume entre les rangées de tentes. La plupart d'entre elles paraissaient presque ordinaires. Leurs propriétaires avaient fait de leur mieux pour qu'elles ressemblent à celles des Moldus, mais ils avaient commis quelques erreurs en ajoutant des cheminées, des cloches ou des girouettes. Certaines, cependant, appartenaient avec tant d'évidence au monde de la magie que Harry comprit pourquoi M. Roberts avait exprimé des soupçons. Vers le milieu du pré se dressait un extravagant assemblage de soies rayées qui avait l'apparence d'un palais miniature, avec plusieurs pans attachés à l'entrée. Un peu plus loin, ils passèrent devant une tente de 3 étages dotée de plusieurs tourelles. À quelque distance, une autre comportait un jardin complet, avec une vasque pour les oiseaux, un cadran solaire et un bassin alimenté par une fontaine.
« Ah, toujours pareil, » dit M. Wesley en souriant. « On ne peut pas résister à l'envie d'épater le voisin quand on est tous ensemble. Oh voilà, regardez, c'est là que nous sommes. »
Ils avaient atteint la lisière du bois tout au bout du pré. Là, devant un emplacement vide, un petit écriteau fiché dans le sol portait le nom de Wesley.
« On n'aurait pas pu souhaiter un meilleur endroit, » dit M. Wesley d'un ton ravi.
Le stade de Quidditch se trouve de l'autre côté de ce bois, impossible d'être plus près. Il fit glisser son sac à dos de ses épaules.
« Bien, » dit-il, le regard brillant d'excitation.
« Alors, souvenez-vous, pas question d'avoir recours à la magie en terrain moldu. Nous dresserons ces tentes à la main. Ça ne devrait pas être trop difficile. Hein ? Les moldus font ça tout le temps. Dis-moi, Harry, à ton avis, par quoi on commence ?»
Harry n'avait jamais campé de sa vie. Quand il partait en vacances, les Dursley le confiaient à Madame Figg, une vieille voisine.
Hermione et lui arrivèrent cependant à comprendre comment il fallait disposer mâts et piquets, et en dépit de M. Wesley qui compliquait les choses en donnant des coups de maillet à tort et à travers avec un enthousiasme débordant, ils finirent par dresser 2 tentes d'aspect miteux qui pouvaient héberger 2 personnes chacune. Ils reculèrent pour admirer leur œuvre. Personne n'aurait pu deviner que ces 2 tentes appartenaient à des sorciers, estima Harry. Mais l'ennui, c'était qu'avec Bill, Charlie et Percy, ils seraient 10 en tout. Hermione semblait avoir également pensé à la question. Elle lança à Harry un regard perplexe lorsque M. Wesley se laissa tomber à 4 pattes pour entrer dans l'une des tentes.
« Oh, on sera un peu à l'étroit, » dit-il, « mais je pense que nous arrivons à tenir. Venez voir. »
Harry se glissa sous l'auvent et resta bouche bée. Il venait de pénétrer dans ce qui ressemblait à un appartement de 3 pièces un peu vieillot, avec cuisine et salle de bain. Étrangement, il était meublé dans le même style que la maison de Madame Figg, avec des fauteuils dépareillés, recouverts d'appuie-tête crochetés et une forte odeur de chat.
« C'est juste pour une nuit, »
dit M. Wesley en épongeant avec un mouchoir son front dégarni. Il regarda les 4 lits superposés disposés dans la chambre.
« J'ai emprunté ça à Perking au bureau. Il fait plus beaucoup de camping, le pauvre, depuis qu'il a un lumbago. »
Il prit la bouilloire poussiéreuse et jeta un coup d'œil dedans. « Nous allons avoir besoin d'eau. » « Il y a un robinet indiqué sur le plan que nous a donné le moldu. » dit Ron, qui avait suivi Harry à l'intérieur de la tente et ne semblait pas du tout impressionné par ses extraordinaires proportions. « C'est de l'autre côté du pré. »«
Dans ce cas, vous pourriez peut-être aller chercher un peu d'eau, Harry, Hermione et toi, hein ?
Et nous, on s'occupera du bois pour le feu. »«
Ouais. »«
Mais on a un four, » dit Ron. « Pourquoi ne pas simplement... »
« Ron, n'oublie pas la sécurité anti-moldu. Lorsque les vrais moldus vont camper, ils font la cuisine dehors sur un feu de bois, je les ai vus. » répondit M. Wesley, apparemment ravi de pouvoir les imiter.
Après une rapide visite de la tente des filles, un peu plus petite que celle des garçons, mais sans odeur de chat, Harry, Ron et Hermione traversèrent le camping en emportant bouilloire et casserole. Le soleil s'était levé et la brume se dissipait. Ils découvrirent alors la véritable ville de toile qui s'étendait dans toutes les directions. Ils avançaient lentement entre les rangées de tentes, regardant autour d'eux avec curiosité. Harry commençait à entrevoir à quel point les sorcières et les sorciers étaient nombreux dans le monde. Jusqu'alors, il n'avait jamais beaucoup songé à ceux qui habitaient dans les autres pays. Les campeurs commençaient à se lever. Les familles avec des enfants en bas âge étaient les premières à se manifester. Harry n'avait encore jamais vu de si jeunes sorciers. Un petit garçon, qui ne devait pas avoir plus de 2 ans, était accroupi devant une grande tente en forme de pyramide, pointant d'un air réjoui une baguette magique sur une limace qui rampait dans l'herbe. Le mollusque enflait lentement et atteignit peu à peu la taille d'un salami. Lorsqu'ils passèrent devant l'enfant, sa mère se précipita hors de la tente.
« Kéfine, combien de fois faudra-t-il que je te le répète, tu ne dois pas toucher à la baguette magique de papa, trappeurk ! Oh, Kéfine !»
Elle venait de marcher sur la limace géante qui explosa sous son poids. Tandis qu'il s'éloignait, sa voix furieuse continua de retentir, se mêlant aux cris du petit garçon.
« T'as cassé ma limace ! Oh, t'as cassé ma limace !»
Un peu plus loin, ils virent 2 petites sorcières à peine plus âgées que Kevin, chevauchant des balais jouets qui s'élevaient juste assez pour que les orteils des 2 fillettes frôlent l'herbe humide de rosée sans vraiment quitter le sol. Un sorcier du ministère les avait déjà repérés. Il passa en hâte devant Harry, Ron et Hermione en murmurant pour lui-même.
« En plein jour, les parents doivent faire la grasse matinée. »
Ici ou là, des sorcières et des sorciers émergeaient de leur tente et commençaient à préparer leur petit déjeuner. Certains, après avoir jeté un regard furtif autour d'eux, allumaient un feu à l'aide de leur baguette magique. D'autres craquaient des allumettes d'un air dubitatif, comme s'il leur paraissait impossible d'obtenir la moindre flamme de cette manière. 3 sorciers africains, vêtus chacun d'une longue robe blanche, étaient plongés dans une conversation très sérieuse, tout en faisant rôtir sur un grand feu aux flammes violettes quelque chose qui ressemblait à un lapin. Un peu plus loin, un groupe de sorcières américaines papotait joyeusement sous une bannière étoilée tendue entre leurs tentes et sur laquelle on pouvait lire « Institut des sorcières de Salem ». Harry percevait des bribes de conversation dans des langues étranges dont il ne comprenait pas un seul mot, mais il sentait une excitation générale dans le ton de chacun. « C'est moi qui vois mal ou bien tout est devenu vert brusquement ?» demanda Ron. Ron voyait très bien. Ils étaient arrivés devant un ensemble de tentes recouvertes d'un épais tapis de trèfles qui les faisait ressembler à d'étranges monticules surgis de terre. Sous les auvents relevés de certaines tentes, on voyait apparaître des visages souriants. C'étaient les supporters de l'équipe irlandaise qui avaient tout recouvert de trèfles, symbole national de l'Irlande. Une voix retentit alors dans leur dos.
« Harry, Ron, Hermione !»
Ils se retournèrent et virent Seamus Finnegan, leur condisciple de Poudlard. Il était assis devant sa propre tente, recouverte de trèfles, en compagnie d'une femme aux cheveux blonds roux, qui devait être sa mère, et de son meilleur ami, Dean Thomas, lui aussi élève de Gryffondor.
« Qu'est-ce que vous dites de la décoration ?»
demanda Seamus dans un grand sourire, lorsque Harry, Ron et Hermione se furent approchés de lui. « Il paraît que les gens du ministère ne sont pas vraiment ravis. »«
Et pourquoi n'aurions-nous pas le droit de montrer nos couleurs ?» dit Madame Finnegan. « Vous devriez aller voir comment les Bulgares ont arrangé leur tente. Vous êtes pour l'Irlande, bien sûr » ajouta-t-elle en regardant Harry, Ron et Hermione avec de petits yeux perçants.
Après lui avoir assuré que, en effet, ils étaient pour l'Irlande, ils poursuivirent leur chemin.
« Comme si on pouvait dire autre chose quand ils sont tous autour de nous, » fit remarquer Ron. « Je me demande comment les Bulgares ont décoré leur tente, » dit Hermione.
« On n'a qu'à aller voir, » dit Harry en montrant le drapeau bulgare, rouge, vert et blanc, qui flottait dans la brise au bout du pré. Cette fois, la décoration n'avait plus rien de végétal. Chacune des tentes bulgares était ornée d'un poster représentant un visage renfrogné avec de gros sourcils noirs. Bien entendu, l'image était animée, mais à part quelques battements de paupières et une moue de plus en plus maussade, le visage n'offrait pas une grande variété d'expressions.
« Krum !» dit Ron à voix basse.
« Quoi ?» dit Hermione.
« Krum !» répéta Ron. « Victor Krum, l'attrapeur bulgare. »
« Oh, il a vraiment l'air grognon !» remarqua Hermione en jetant un regard circulaire aux nombreux Krums qui les observaient en clignant des yeux, la mine revêche.
« L'air grognon ?»
Ron leva les yeux au ciel.
« Qu'est-ce que ça peut faire ? L'air qu'il a, c'est un joueur incroyable ! En plus, il est très jeune, à peine plus de 18 ans. C'est un génie, tu verras ce soir !»
Il y avait déjà une petite file d'attente devant le robinet. Harry, Ron et Hermione s'y joignirent, derrière 2 hommes qui se disputaient âprement. L'un d'eux était un très vieux sorcier vêtu d'une longue chemise de nuit à fleurs. L'autre était, de toute évidence, un sorcier du ministère. Il tenait entre ses mains un pantalon à fines rayures et paraissait tellement exaspéré qu'il en criait presque.
« Mais Sarge, si je t'en prie, fais pas d'histoire, tu peux pas te promener habillé de cette façon, le moldu du camping commence déjà à avoir des soupçons. J'ai déjà acheté ça dans un magasin pour moldu !»
dit le vieux sorcier d'un air obstiné.
« Les moldus portent ces choses-là. Mais ce sont les femmes moldues qui les portent, Argy, pas les hommes, ils portent ça !» dit l'autre en brandissant le pantalon rayé. « Je mettrai jamais ce truc-là !» s'indigna le vieux Archie. « J'aime bien que mon intimité puisse respirer à son aise, voilà !»
Hermione fut prise d'un tel fou rire qu'elle dut s'éloigner de la file d'attente. Elle ne revint que lorsqu'Archie fut reparti après avoir fait sa provision d'eau. En marchant beaucoup plus lentement à cause du poids de l'eau dans le récipient, Harry, Ron et Hermione traversèrent le pré dans l'autre sens pour retourner à leur tente. De temps en temps, ils apercevaient un visage familier, d'autres élèves de Poudlard venus avec leur famille. Olivier Dubois, l'ancien capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, qui avait terminé ses études, traîna Harry jusqu'à sa tente pour le présenter à ses parents et lui annonça, d'un ton surexcité, qu'il venait de signer un contrat avec l'équipe de réserve du club de Flaquemart. Ils furent ensuite salués par Ernie Macmillan, qui était en quatrième année à Poufsouffle, et virent également Cho Chang, une jeune fille d'une grande beauté qui jouait au poste d'attrapeur dans l'équipe de Serdaigle. Avec un grand sourire, elle adressa un signe de la main à Harry, qui renversa sur lui une bonne partie de son eau en lui faisant signe à son tour. Pour mettre fin au rire narquois de Ron, Harry montra du doigt un groupe d'adolescents qu'il n'avait jamais vu auparavant.
« Qui c'est, à ton avis » demanda-t-il. « Ils ne sont pas à Poudlard. »«
Ils doivent venir d'une école étrangère, » répondit Ron.
« Je sais qu'il en existe, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui y soit allé. Bill avait un correspondant dans une école brésilienne, il y a des années de ça. »
Il aurait bien voulu aller le voir, mais mes parents n'avaient pas les moyens de lui payer le voyage. Son correspondant a été terriblement vexé en apprenant qu'il ne viendrait pas. Il s'est vengé en lui envoyant un chapeau ensorcelé. Quand Bill l'a mis sur sa tête, ses oreilles se sont ratatinées comme de vieux pruneaux. Harry éclata de rire, mais il ne dit rien de la stupéfaction qu'il avait éprouvée en apprenant l'existence d'autres écoles de sorcellerie. Voyant à présent des représentants de tant de nationalités différentes, il pensa qu'il avait été stupide de ne pas se douter que Poudlard ne pouvait être la seule école de sorciers au monde. Il jeta un regard à Hermione qui, elle, n'avait pas du tout l'air surpris. Elle avait sûrement lu dans un livre quelconque qu'il existait dans d'autres pays des écoles semblables.
« Vous en avez mis un temps, » dit George lorsqu'ils furent enfin revenus devant leur tente.
« On a rencontré des ans, » répondit Ron en posant l'eau par terre.
« Vous n'avez pas encore allumé le feu ?»«
Papa s'amuse avec les allumettes, » dit Fred.
Malgré tous ses efforts, M. Wesley n'arrivait pas à allumer le feu. Des allumettes cassées jonchaient le sol autour de lui, mais il semblait ne s'être jamais autant amusé de sa vie.
« Oups !» dit-il en parvenant à enflammer une allumette. Il fut si surpris qu'il la laissa aussitôt tomber.
« Regardez, Monsieur Wesley, » dit Hermione avec patience. Elle lui prit la boîte des mains et lui montra comment s'y prendre. Au bout d'un moment, ils réussirent enfin à allumer un feu, mais il fallut attendre encore une heure avant que les flammes soient suffisamment hautes pour faire cuire quelque chose. Ils eurent cependant de quoi s'occuper en attendant. Leur tente était en effet dressée le long d'une sorte de grande allée qui menait au terrain de Quidditch et que les représentants du ministère ne cessaient d'emprunter, adressant un salut cordial à M. Wesley chaque fois qu'il passait devant lui. Celui-ci faisait bénéficier Harry et Hermione de ses commentaires, ses propres enfants en sachant déjà trop long sur les coulisses du ministère pour s'y intéresser.
Alors ça... C'est Cubert Fauscrête, chef du bureau de liaison des Gobelins. Celui qui arrive, là-bas, c'est Gilbert Frippmin. Il fait partie de la commission des sortilèges expérimentaux. Il y a déjà un certain temps qu'il a des cornes sur la tête, oui. Tiens, bonjour Arnie.
C'est Arnold Bondupois, un oubliateur, membre de la brigade de réparation des accidents de sorcellerie.
Voici maintenant Morose et Funestar. Ce sont des langues de plomb.
Des quoi ?
Du département des mystères. Tout ce qu'ils font est top secret. On n'a aucune idée de leur activité.
Le feu fut enfin prêt et ils avaient commencé à faire cuire des œufs et des saucisses lorsque Bill, Charlie et Percy sortirent du bois pour venir les rejoindre.
« On vient de transplaner, papa !» dit Percy d'une voix sonore.
« Ah, parfait ! On arrive pour le déjeuner !»
Tandis qu'ils mangeaient leurs œufs aux saucisses, M. Wesley se leva soudain en faisant de grands signes à un homme qui marchait vers eux d'un bon pas.
« Voici l'homme du jour, Ludo !»
Parmi tous les gens que Harry avait vus dans le camping, Ludo Verpet
était de très loin la personne qu'on remarquait le plus. Plus encore que le vieux Archie avec sa chemise de nuit à fleurs. Il portait une longue robe de Quidditch à grosses rayures horizontales, noires et jaunes vifs. Une énorme image représentant un frelon s'étalait sur sa poitrine. Il avait l'allure d'un homme à la carrure d'athlète qui se serait légèrement laissé aller. Sa robe était tendue sur un ventre qu'il n'avait certainement pas au moment où il jouait dans l'équipe d'Angleterre de Quidditch. Son nez était écrasé, sans doute cassé par un cognard déchaîné, songea Harry, mais ses yeux bleus et ronds, ses cheveux blonds coupés courts et son teint rose lui donnaient l'air d'un collégien trop vite grandi.
« Ça, par exemple !» s'exclama Verpet d'un air joyeux.
Il marchait comme s'il avait eu des ressorts sous la plante des pieds et paraissait au comble de l'excitation.
« Arthur, mon vieil ami » lança-t-il d'une voix haletante en arrivant devant le feu de camp. « Quelle belle journée, hein ? Quelle journée ! Est-ce qu'on aurait pu imaginer un plus beau temps, une soirée sans nuages qui s'annonce et pas la moindre, Annie Croche dans l'organisation ? Hein ? J'ai pas grand-chose à faire. »
Derrière lui, un groupe de sorciers du ministère passèrent au pas de course, les ragards, montrant au loin d'étranges étincelles violettes projetées à 5 ou 6 mètres de hauteur par un feu de camp qui était de toute évidence d'origine magique. Percy se précipita la main tendue. Apparemment, la désapprobation que lui inspirait la façon dont Ludo Verpet dirigeait son département ne l'empêchait pas de vouloir faire bonne impression.
« Ah, mais !» dit Monsieur Wesley avec un sourire. « Je te présente mon fils !» Percy, il vient d'entrer au ministère et voici Fred, hein? George, excuse-moi, Fred c'est lui, Bill, Charlie, Ron, ma fille, Ginny, et des amis de Ron, Hermione Granger et Harry Potter.
Verpet marqua un bref instant d'hésitation en entendant le nom de Harry et son regard suivit la trajectoire habituelle vers sa cicatrice.
Je vous présente Ludo Verpet, poursuivit M. Wesley en se tournant vers les autres. « C'est grâce à lui que nous avons eu de si bonnes places. »
Verpet rayonna et fit un geste de la main comme pour dire que c'était rien.
« Voyons, tu veux faire un petit pari sur le résultat du match, Arthur »
demanda-t-il d'un ton avide en agitant les poches de sa robe jaune et noire. D'après le tintement qu'on entendait, elle devait contenir une bonne quantité de pièces d'or.
« Roddy Ponter m'a déjà parié que ce serait la Bulgarie qui marquerait les premiers points. Je lui ai proposé un bon rapport, étant donné que l'équipe d'Irlande rassemble les 3 meilleurs avants que j'ai vus depuis des années. Et la petite Agatha Timms a parié la moitié des actions de son élevage d'anguilles que le match durerait une semaine. »«
Alors c'est d'accord. Allons-y, » dit M. Wesley. « Voyons, un galion sur la victoire de l'Irlande. »«
Un galion ?»
Ludo Verpet sembla un peu déçu, mais il retrouva très vite son sourire.
« Très bien, très bien. D'autres amateurs
sont un peu jeunes pour parier, » dit Monsieur Wesley.
« Molly ne serait pas d'accord pour que... »«
On parie 37 galions, 15 mornilles et 3 noises, » dit Fred en rassemblant son argent avec George, « que l'Irlande va gagner, mais que ce sera Victor Krum qui attrapera le vif d'or. Et on ajoute même une baguette farceuse. »
« Vous n'allez pas montrer à M. Verpet des idioties pareilles !» s'indigna Percy. Mais Verpet ne semblait pas trouver que la fausse baguette magique était une idiotie. Au contraire, son visage juvénile brilla d'excitation lorsque Fred la lui tendit. Quand il la vit se transformer, avec un cri aigu, en un poulet en caoutchouc, Verpet éclata d'un rire tonitruant.
« Excellent ! Ça fait des années que je n'en avais pas vu d'aussi bien imité. Je vous l'achète 5 galions !»
Percy se figea dans une attitude à la fois stupéfaite et scandalisée.
« Les enfants, » murmura M. Wesley, « je ne veux pas vous voir parier. Ce sont toutes vos économies, votre mère. »«
Allons, ne joue pas les rabat-joie, Arthur !»
s'exclama Ludo Verpet en remuant frénétiquement l'or qui remplissait ses poches.
« Ils sont suffisamment grands pour savoir ce qu'ils veulent, hein ? Vous pensez que l'Irlande va gagner, mais que ce sera Krum qui attrapera le vif d'or ? Pas la moindre chance, mes enfants, pas la moindre chance. Je vais vous offrir un très bon rapport sur ce pari-là. » Et on va ajouter 5 galions pour la baguette comique, n'est-ce pas ?
Monsieur Wesley regarda avec un air d'impuissance Ludo Verpet sortir de sa poche une plume et un carnet sur lequel il griffonna le nom des jumeaux. « Merci beaucoup, » dit Georges. Il prit le morceau de parchemin que Verpet lui tendait et le glissa dans une poche. Ludo Verpet se tourna alors vers Monsieur Wesley d'un air plus joyeux que jamais.
« Tu pourrais pas me faire une petite tasse de thé par hasard ? Hein ? J'essaie de repérer Barty Croupton. » « Mon homologue bulgare fait des difficultés, je comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Barty saura m'arranger ça. Il parle à peu près 150 langues étrangères. »«
Monsieur Croupton ?» dit Percy qui avait perdu son air de réprobation indigné et frémissait soudain d'excitation.
« Il en parle plus de 200. y compris la langue des sirènes, la langue de bois et la langue des trolls.
« Tout le monde sait parler troll, » dit Fred d'un air dédaigneux. « Il suffit de grogner en montrant du doigt. »
Percy lança à Fred un regard assassin et remua vigoureusement le feu pour faire chauffer la bouilloire.
« Tu as eu des nouvelles de Bertha Jorkins, Ludo ?» demanda M. Wesley, tandis que Verpé s'asseyait dans l'herbe à côté d'eux.
« Pas l'ombre d'une plume de hibou !»
répondit celui-ci d'un ton très détendu. « Mais elle finira bien par revenir !»
Pauvre vieille Bertha. Sa mémoire ressemble à un chaudron qui fuit, elle n'a pas le moindre sens de l'orientation. Elle s'est perdue, tu peux en être sûr. Elle va réapparaître au bureau au mois d'octobre en pensant qu'on est toujours en juillet.
Tu crois pas qu'il serait peut-être temps d'envoyer quelqu'un à sa recherche? Suggéra timidement M. Wesley pendant que Percy tendait à Verpé une tasse de thé.
C'est ce que Barty Croupton ne cesse de me répéter, dit Verpé. Ses yeux ronds s'écarquillant d'un air naïf. « Mais on n'a vraiment personne pour ça en ce moment. Tiens, quand on parle du loup, ah voilà Barty !»
Un sorcier venait de transplaner à côté de leur feu de camp. Il n'aurait pu offrir contraste plus frappant face à Ludo Verpé, vautré dans l'herbe avec sa vieille robe de l'équipe des frelons. Barty Croupton était un vieil homme raide et droit, vêtu d'un costume impeccable, avec cravate assortie et chaussé d'escarpins parfaitement cirés qui étincelaient au soleil. L'arrêt de ses cheveux gris, coupés courts, était si net qu'elle paraissait presque surnaturelle. Et son étroite moustache, en forme de brosse à dents, semblait avoir été taillée à l'aide d'une règle à calcul. Harry comprit tout de suite pourquoi Percy le vénérait. Aux yeux de Percy, rien n'était plus important que d'observer scrupuleusement les règles et M. Croupton avait tellement bien suivi celle de l'habillement moldu qu'il aurait très bien pu se faire passer pour un directeur de banque. Harry doutait que l'oncle Vernon lui-même ait pu deviner qui il était véritablement.
« Faites comme chez vous, Barty !» dit chaleureusement Ludo en tapotant l'herbe à côté de lui.
« Non, merci, Ludo !» répondit Croupton avec une pointe d'impatience dans la voix. « Je vous ai cherché partout. Les Bulgares insistent pour que nous ajoutions 12 sièges à la tribune officielle. »«
Ah, c'est donc ça qu'ils veulent !» dit Verpé. « Je croyais que le bonhomme me demandait des bouts de Liège. Oh, il y a un sacré accent !»«
Monsieur Croupton ?» dit Percy le souffle court en faisant une sorte de courbette qui lui donnait l'air d'un bossu. « Puis-je vous proposer une tasse de thé ?»«
Oh !» répondit Monsieur Croupton avec une expression légèrement surprise.
« Oui ?» « Très volontiers, Wistilly. »
Fred et Georges plongèrent dans leur tasse en s'étranglant de rire, tandis que Percy, les oreilles d'un rouge soutenu, s'affairait avec la bouilloire.
« Ah, je voulais aussi vous parler de quelque chose, Arthur, » dit M. Croupton, son regard perçant se tournant vers M. Wesley. « Ali Bachir est sur le sentier de la guerre. Il veut vous dire deux mots au sujet de l'embargo sur les tapis volants. »
M. Wesley poussa un profond soupir.
« Je lui ai envoyé un hibou à ce propos il y a à peine une semaine. Je le lui ai répété 100 fois. Les tapis sont définis comme un artefact moldu par le bureau d'enregistrement des objets à ensorcellement prohibé.
Ah, mais est-il disposé à m'écouter ?»«
J'en doute, »
répondit M. Croupton prenant la tasse de thé que lui tendait Percy.
« Il tient désespérément à exporter ses produits chez nous. »
« Ils ne remplaceront jamais les balais en Grande-Bretagne, n'est-ce pas ?»
intervint Verpé.
« Ali pense qu'il y a un segment de marché pour un véhicule familial, » dit M. Croupton. « Je me souviens que mon grand-père avait un Axminster qui pouvait transporter 12 personnes, mais c'était avant que les tapis volants soient interdits, bien sûr.
Il avait dit cela comme s'il tenait à ce que tout le monde soit bien convaincu que ses ancêtres avaient toujours scrupuleusement respecté la loi.
« Alors vous avez eu beaucoup de travail, Barty !»
dit Verpé d'un ton léger.
« Pas mal, oui, » répondit sèchement M. Croupton. « Organiser les transports par port au loin, depuis les 5 continents, n'a rien d'une partie de plaisir, Ludo. »«
J'imagine que vous serez bien contents tous les deux lorsque tout ça sera terminé, » dit M. Wesley.
Ludo Verpé sembla choqué.
« Content ? Mais je ne me suis jamais autant abusé. Bah, évidemment, on peut pas dire que ce soit de tout repos, pas vrai, Barty ? Hein ? On a encore des tas de choses à organiser, pas vrai, Barty ?»
Monsieur Croupton regarda Verpé en haussant le sourcil.
« Nous étions d'accord pour ne faire aucune annonce avant que tous les détails soient... »«
Oh, les détails !» dit Verpé avec un geste désinvolte comme s'il dispersait un nuage de moucherons. « Ils ont signé, non ? Ils sont d'accord ! Je vous parie que les enfants seront vite au courant. Après tout, c'est à Poudlard que ça se passe !»«
Ludo, il faut aller voir les Bulgares maintenant. » interrompit sèchement Monsieur Croupton. « Merci pour le thé, Wistilly.
Il rendit sa tasse pleine à Percy et attendit que Ludo se lève. Verpé se remit péniblement debout, vidant sa tasse de thé, l'or de ses poches tintant allègrement.
« À bientôt tout le monde! Vous serez avec moi dans la tribune officielle. C'est moi qui fais le commentaire !»
Il agita la main, Barty Croupton leur adressa un bref signe de tête, et tous deux disparurent en transplanant.
« Qu'est-ce qui doit se passer à Poudlard, papa ?» demanda aussitôt Fred. « De quoi parlait-il ? »
« Tu le sauras bien assez tôt, » répondit Monsieur Wesley en souriant.
« C'est une information classée confidentielle jusqu'à ce que le ministère décide de la rendre publique, » dit Percy avec raideur. « Monsieur Croupton a eu parfaitement raison de ne pas le divulguer. »
« Oh, silence, Ouistilly !» dit Fred. À mesure que l'après-midi avançait, une sorte de frénésie envahissait le camping tel un nuage palpable. Au coucher du soleil, la tension faisait frémir la paisible atmosphère de l'été, et lorsque la nuit tomba, comme un rideau, sur les milliers de spectateurs qui attendaient le début du match, les dernières tentatives de masquer la réalité disparurent. Le ministère semblait s'être incliné devant l'inévitable, et ses représentants avaient renoncé à réprimer les signes évidents de magie qui se manifestaient un peu partout. Des vendeurs ambulants transplanaient à tout moment, portant des éventaires ou poussant des chariots remplis d'articles extraordinaires. Il y avait des rosettes lumineuses, vertes pour l'Irlande, rouges pour la Bulgarie, qui criaient d'une petite voix aiguë les noms des joueurs, des chapeaux pointus, d'un vert étincelant orné de trèfles d'encens, des écharpes bulgares décorées de lions qui rugissaient véritablement, des drapeaux des deux pays qui jouaient les hymnes nationaux dès qu'on les agitait. On trouvait aussi des modèles miniatures d'éclairs de feu qui volaient et des figurines de collection représentant des joueurs célèbres qui se promenaient dans la paume de la main d'un air avantageux. « Vais économiser mon argent de pof, tout l'été pour ça !» dit Ron à Harry. Tous deux, accompagnés d'Hermione, se promenèrent longuement parmi les vendeurs en achetant des souvenirs. Ron fit l'acquisition d'un chapeau à trèfle d'encens et d'une grande rosette verte, mais il acheta aussi une figurine de Victor Krum, l'attrapeur bulgare. Le chrome miniature marchait de long en large sur sa main, lançant des regards courroucés à la grande rosette verte qui s'étalait au-dessus de lui.
« Oh, regarde ça !» s'exclama Harry qui se précipita vers un chariot surchargé d'objets semblables à des jumelles de cuivre, dotées de toutes sortes de boutons et de cadrans.
« Ce sont des multiplintins !» dit le sorcier vendeur d'un air empressé. « Elles permettent de revoir une action, de faire des ralentis, et de détailler image par image n'importe quel moment du match, si vous le désirez. C'est 10 galions pièces, hein ?»«
J'aurais pas dû acheter ça, » dit Ron, le doigt pointé sur son chapeau à trèfle en regardant avec envie les multiplettes.
« Donnez-moi 3 paires, » lança Harry au vendeur d'un ton décidé.
« Non, non, laisse tomber, » répondit Ron en rougissant. Il était toujours très sensible au fait que Harry, qui avait hérité de ses parents une petite fortune, était beaucoup plus riche que lui.
« Ce sera ton cadeau de Noël !» lui dit Harry en donnant à Ron et à Hermione une paire de multiplettes chacun. « Pour les 10 ans qui viennent !»«
D'accord, » admit Ron avec un sourire.
« Oh, merci Harry, » dit Hermione. « Et moi, je vais acheter des programmes. »
La bourse beaucoup plus légère, ils retournèrent à leur tente. Bill, Charlie et Ginny arboraient eux aussi des rosettes vertes et M. Wesley avait un drapeau irlandais. Fred et George, quant à eux, n'avaient pu acheter aucun souvenir. Ils avaient donné tout leur or à Verpé.
Enfin, un grand coup de gong retentit avec force quelque part, au-delà du bois, et aussitôt, des lanternes vertes et rouges étincelèrent dans les arbres, éclairant le chemin qui menait au terrain de Quidditch.
« C'est l'heure !» dit Monsieur Wesley, qui avait l'air aussi impatient que « Venez, on y va !»